France Inter.
France Inter. Le téléphone sonne. Fabienne Santet.
Ah ben voilà qui se mêle de tout maintenant, ces petites choses. Allez, vous qui avez eu des enfants, le stress que vous vous collez, mais tout de suite, le stress qu'on vous colle tout de suite sur ce qu'il ne faut surtout pas faire, ou au contraire, ce qu'il faut surtout faire dans les premiers mois et les toutes premières années. Quand je pense au nombre d'années où on a dit aux parents que tout se jouait avant 6 ans et qu'ils l'ont cru, comme s'il y avait des cases à cocher avant d'entrer en CE1, et s'il en manque une, c'est foutu pour la vie. Heureusement, on a beaucoup bougé depuis, mais bien sûr que c'est important, ces années-là, celles de l'éveil cognitif, celles des premières interactions, celles du langage, et puis la motricité, le début des compétences sociales, émotionnelles, et nous allons évidemment en parler avec ceux qui étudient ça bien mieux que nous. Et ce soir, nous allons aussi prendre cet éveil avec décontraction à l'occasion de la sortie de mon tout petit France Inter, tout spécialement conçu donc pour les 2 à 6 ans, une radio rien que pour eux. Ça veut dire des musiques d'éveil, des comptines, des histoires, ce qui nous permettra de comprendre ce qui se passe dans le cerveau d'un tout petit quand il s'éveille au son. À quel moment son imaginaire commence-t-il à gambader et vers quoi, puisque par définition son univers est encore très restreint. Avec quoi on le touche? Qu'est-ce qu'on lui dit? De quoi on lui parle? Qu'est-ce qui se passe dans cette masse de choses qu'il est apte à comprendre? Est-ce qu'il sait faire un tri? Quelle sorte de tri fait-il à ses âges tout petits? Qu'est-ce qui s'installe dans la toute petite enfance? C'est la sortie de mon tout petit France Inter. Alertez les bébés et c'est le téléphone sonne. Soyez les bienvenus.
France Inter, le téléphone sonne. Allô?
Allô Véronique, bonsoir.
Bonsoir.
C'est vous la première et vous êtes la bienvenue.
Je suis très émue. Et en effet, j'avais laissé un message sur WhatsApp tout à l'heure pour dire que j'ai souvent imaginé, rêvé d'avoir la radio des tout-petits dans la voiture quand je voyageais avec mes enfants, qui sont jeunes adultes maintenant, mais quand on faisait des longs trajets, je trouvais que la radio n'était pas forcément adaptée pour eux. Et puis, au bout d'un moment, les mêmes CD, tout le temps. Un peu plus grand, on a craqué pour la Nintendo 3DS, mais mais ça, c'est limite. Et puis
personne
et puis,
ne
voilà,
vous blâme, et, Véronique, mais c'est mal.
Voilà. mais c'est vrai que j'ai souvent pensé que une radio adaptée au tout petit d'abord et puis au préado ensuite, ça aurait été formidable. Donc vous le faites, c'est bien. Après, ils ont écouté des tas de CD qui n'étaient pas forcément pour eux, mais des musiques qu'on aimait beaucoup et qu'ils maintenant, dont ils connaissent maintenant les chansons par cœur.
Mais vous avez donc toujours eu un œil, si j'ose dire, enfin sur ce qu'ils avaient dans l'oreille, en fait, vos enfants, même tout petits ou pas?
Ah oui, toujours. Alors c'était quand même, ils ont respectivement 19 et 24 ans maintenant, donc c'était peut-être avant l'explosion des réseaux sociaux qu'on connaît aujourd'hui. Mais oui, j'ai toujours été mon mari et moi avons toujours été très attentifs à ce qu'ils écoutaient, à ce qu'ils lisaient. Et puis après, on a fait comme tous les parents, on a essayé de gérer.
C'est-à-dire comme vous avez
mieux,
pu.
Comme on a pu, au mieux. Et puis parfois les enfants nous devancent. On découvre un jour qu'ils utilisent des canaux qu'on leur a pas présentés.
Ouais.
mais voilà. Mais c'est vrai que moi j'écoute beaucoup la radio en voiture, en fait, plus qu'à la maison. Et voilà, encore une fois, quand on faisait des longs trajets avec eux, j'aurais bien aimé.
Écoutez, ce sera pour les petits-enfants. En effet, je vous remercie beaucoup, Véronique. Merci pour ce gentil et ce chouette appel pour démarrer ce téléphone sonne. Pour discuter ensemble jusqu'à 20h, il y a Ghislaine Dehaene-Lamberts. Bonsoir.
Bonsoir.
Pédiatre, directrice de recherche au CNRS, directrice de l'Institut Robert Debré du cerveau de l'enfant. Il y a aussi Gwenaëlle Boulet. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes rédactrice en chef des magazines Poppy et Pomme d'Api. Vous êtes responsable du pôle éveil de Bayard Jeunesse et Milan. Et vous êtes aussi autrice jeunesse, autrice de BD aussi, parce que Ma vie de parent chez Bayard Graphique et France Inter d'ailleurs.
Tout à fait.
C'est l'adaptation des BD, des chroniques que vous faisiez chez l'ami Ali Rébéi toute la saison dernière dans Grand Bien vous fasse. Ghislaine Dehaene, si je posais la question à Véronique de savoir si elle savait toujours en fait ce qu'il y avait dans les oreilles de ses enfants, Moi, je me demande, en fait, qu'est-ce qui se passe dans l'oreille des enfants, justement, quand ils sont tout petits, quand on parle des vraiment tout petits.
Oui, on peut même parler des bébés,
et
en
même
fait.
Les bébés, d'ailleurs.
Je sais que c'est un peu en dessous les 2 ans.
Mais c'est pas grave, vous pouvez y aller quand même. Ils sont réceptifs à quoi, en fait, quand on...
Ils adorent la parole. Alors, ouais. Ils adorent la parole, ils adorent le chant, ils adorent échanger, en fait. Donc, c'est pas seulement juste leur mettre la radio, parce qu'on pourrait avoir tendance, mais on a le droit d'être occupé, d'aller faire la cuisine et du coup, de leur mettre le petit France Inter. Mais c'est très important aussi d'échanger avec eux. D'avoir ce dialogue, même tout petit, les vocalisations, puis ensuite les babillages, on répète, on ne sait pas trop qui imite qui, mais ça c'est crucial pour installer la langue. Pour qu'ils comprennent 2 choses, la langue c'est quoi? C'est d'abord comprendre un système qui nous permet d'échanger, hein. Le français c'est pas le turc, c'est pas le japonais, donc il faut que chaque bébé apprenne les caractéristiques de sa langue maternelle, et tous les bébés sont capables d'apprendre leur langue maternelle, il faut les baigner dans cette langue, et puis ensuite... Il faut qu'ils comprennent que le langage sert à communiquer, à avoir de l'information sur le monde. Et en fait, les parents, en leur parlant, leur indiquent ce qui est important dans le monde. Mmh. Et donc, décomplexifient un peu ce monde, comme on le disait tout à l'heure, très complexe autour d'eux.
Et alors, quand ils captent une histoire, par exemple, je disais tout à l'heure en introduction que moi, ce qui me fascine, c'est une histoire, ça fait vagabonder l'imagination. Mmh. Mais qu'est-ce qu'on a comme imagination quand on a une toute petite vie derrière soi?
On en a beaucoup. D'abord, on s'amuse, et on va peut-être en parler tout à l'heure avec une autrice. Pour les petits, on s'amuse avec les sons de la langue, et ça, ils y sont sensibles extrêmement tôt. Mmh. Les répétitions, les picorettes, maisons maisonnettes, enfin ce genre de choses qu'on a dans les langues, les comptines avec les rimes, et tout ça, ils y sont sensibles très très tôt. Ça leur donne la structure de la langue, c'est comme ça qu'ils vont apprendre la structure de la langue. Et puis après, de découvrir des choses qui ne sont pas ce qu'ils voient tous les jours, qu'il y a par exemple de la neige, des igloos, ou au contraire un soleil très chaud, ça éveille, mais là, peut-être l'autrice...
Vous savez, Gwenaëlle Boulay...
Non, je ne sais pas, mais ce qui est génial, c'est qu'effectivement, il y a le côté neuroscientifique, et ça, vous en parlerez très bien, en plus techniquement, etc. Mais ce qui est important, c'est que dès le départ, ce qu'on sent, c'est que le langage, c'est du lien, du partage. Et c'était intéressant ce qu'elle disait, l'auditrice, je trouve, dans la voiture, parce qu'au fond, qu'on écoute un récit, qu'on écoute une musique, etc., ce qu'on a envie quand même, c'est de pouvoir partager autour. Et ça, dès tout petit, en fait, ce qui va apprendre l'enfant tout petit, c'est que le langage, c'est en fait cette espèce de lien invisible qui va se tisser entre la personne qui parle et le bébé. Et c'est ce lien qui va permettre de se séparer quelque part. Puisque au départ, on est sur du corps à corps, du pot à pot, c'est comme ça qu'on va être. Il va avoir ce besoin de sécurité, c'est du corps à corps. Et petit à petit, ce corps à corps, on va devoir l'espacer, petit à petit. Et le langage, c'est justement ce qui sert à tisser ce lien en s'espaçant avec un enfant. Et donc, il a quand même une valeur symbolique très forte. C'est pour ça que, certes, et nous aussi, on est des éditeurs, donc papier, musique, audio et tout ça, c'est important de créer des contenus, mais qui ne sont pas forcément des contenus pour en faire des enfants qui vont être hyper cultivés juste dans leur bulle. Mmh. Ce sont surtout, et en ça, tous ces contenus sont intéressants.
Mais on peut en parler des contenus après. Voilà. En fait, la discussion, elle vient surtout de parler du contenu.
Créer du lien, partager, c'est ça qui est intéressant.
Mais en fait, il y a eu des études dans nos laboratoires, on essaye de comprendre ce que fait le bébé au tout départ. On pourrait expliquer comment on le fait, parce que ça semble pas évident. Mais en fait, très tôt,
c'est vrai, vous avez des cobayes bébés dans vos laboratoires.
Oui, ils viennent, des tout petits, des 3 mois, des nouveau-nés parfois. On travaille dans les maternités pour essayer de comprendre comment... Alors, il y a très longtemps, avec des méthodes aussi indirectes que la succion, maintenant, on a des plus grosses machines, comme les IRM ou l'électroencéphalographe. Mais on peut arriver à saisir ce que comprend un bébé. Et par exemple, très tôt, il sait que la parole communique une information. Donc, par exemple, si l'expérimentateur parle au bébé qui est devant lui de 3-4 mois, puis tourne la tête, il s'attend à ce qu'il y ait quelque chose qui se passe du côté où la personne a tourné la tête. Si par contre elle fait juste et elle tousse devant lui, elle se tourne après, là, il ne suit pas le regard. Donc il a compris très tôt que parler et avoir ce contact oculaire, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure des dialogues, est crucial pour apprendre quelque chose sur le monde. Et ça, c'est extrêmement tôt. C'est pas, je suis d'accord, c'est l'échange, c'est les émotions, mais c'est aussi comprendre le monde et s'appuyer sur l'adulte pour comprendre le monde. Et ça, c'est quelque chose vraiment de très précoce.
Et il sait faire un tri ou pas, ce petit si petit, précisément quand on fait une expérience, il tourne la tête et puis finalement, il n'y a rien. Donc, qu'est-ce que ça provoque chez lui ? Il se dit,
on joue sur la surprise beaucoup. C'est-à-dire, si tout d'un coup, il n'y a pas ce qu'il attend, à ce moment-là, généralement, on le voit ouvrir grand les yeux, froncer les sourcils. Enfin, il a des mimiques très, très intéressantes. Et d'ailleurs, c'est assez, pour les parents, intéressant parce que d'habitude, bon, évidemment, ils s'occupent de leur bébé, ils interagissent avec lui. Là, dans une expérience comme on fait dans les laboratoires, ils sont obligés de regarder. Mmh. Et ils sont surpris, ils découvrent que leur bébé, même tout petit, a ces réactions de surprise, d'essayer de deviner ce qui se passe et donc d'attendre certaines choses.
Voici Anne-Sophie qui nous attend. Bonsoir Anne-Sophie.
Bonsoir.
Bienvenue Anne-Sophie.
Merci. Alors moi je suis assistante paternelle, donc j'ai un public de 0 à 3 ans toute la semaine. J'en ai 4 enfants en accueil. Et depuis que mon tout petit France Inter est sorti lundi, en fait, eh bien je vois la différence avec mon petit France Inter. Mmh. C'est beaucoup plus ciblé. Et le rythme est vraiment est beaucoup plus lent, beaucoup plus doux. Et je vois bien que les enfants sont happés, en fait, par certaines chansons.
Mais justement, happés par quoi à cet âge-là ? Moi, ça me fascine, en fait. Est-ce que c'est happé par les histoires, ou par la musique, ou par les comptines ? Est-ce qu'il faut qu'il y ait des mots ?
Et ce qui les intéresse souvent, c'est quand le programme qui veut arriver commence par des rires d'enfants, par exemple. Ça les interpelle. Toujours, donc ils s'arrêtent. En général, j'observe. Hein. J'observe beaucoup les enfants que j'ai, et du coup, ça tout de suite, ils ont une oreille beaucoup plus attentive. Ça leur parle tout de suite. Et donc du coup, ils écoutent. Alors si c'est une chanson, par exemple aujourd'hui, vous avez passé, enfin mon tout petit France Inter a passé Les Animaux de la Forêt, la musique, c'était du Prokofiev, tout ça. Ils connaissaient Pierre et le Loup parce que j'en avais fait écouter. Donc là, ils ont été vraiment super intéressés. Et ensuite, c'est parti avec d'autres bruits d'animaux, d'autres, il y avait Verdi aussi, je crois, tout ça. Et du coup, ils ont continué à écouter. Et c'est très court, les programmes sont très courts, donc vraiment, vraiment adaptés. Donc c'est parfait. Absolument parfait. Moi, ça me change la vie parce que je suis une fidèle auditrice de France Inter, mais vraiment, avec tous les sujets ces derniers temps, la guerre, les affaires de mœurs, de viol, tout ça, c'est pas possible d'écouter ça, c'est pas approprié. donc voilà.
Merci beaucoup Anne-Sophie, vraiment merci, on les embrasse les tout petits qui sont avec vous et dont vous vous occupez, Gwenaëlle Boulay. Évidemment qu'il y a des choses, il y a des choses qui sont à entendre pour les enfants spécifiquement et qui éveillent des choses auxquelles on n'avait pas forcément pensé. J'aime bien quand elle nous dit quand ils entendent les rires des enfants, forcément ça leur fait un autre effet en fait.
Oui, ils se reconnaissent, c'est leur monde, donc ça les attire. Ce qui est intéressant, que ce soit dans la littérature de jeunesse ou des choses qu'on va écouter avec eux, c'est cette alternance chez des petits entre la surprise et la répétition. C'est-à-dire qu'à cet âge-là, toute la petite enfance va être destinée à une chose, c'est de construire une sécurité intérieure. D'accord ? Donc ça va passer par plein de choses dans la vie, et une sécurité déjà physique, etc. Et puis cette sécurité intérieure, elle va se construire par plein de choses. Mais en particulier par le fait de pouvoir faire rentrer de l'inconnu et de la surprise, petit à petit, dans quelque chose qui est suffisamment sécurisant. Et donc c'est pour ça que les enfants, donc tous les parents ont vécu ça, de devoir lire, relire, surrelire et lire 14 000 fois même histoire. On n'en peut plus, on peut pas changer une passe. Mais c'est hyper important. Pourquoi ? Parce qu'un petit, tout est tellement nouveau pour lui, tout est tellement découverte que vous imaginez si il est obligé de mettre ça dans un ordre, de ranger ça dans quelque chose. Et les adultes aussi, je dis ça, on n'est pas capable d'absorber une dose de nouveauté sans cesse croissante. Donc, ce qui va être important, ça va être quelque part des rituels. Donc, quand cette assistante maternelle dit qu'elle écoute le petit français, s'inter ou autre, ce qui est intéressant, c'est que tout à coup, ils vont sentir qu'il y a quelque chose qui va se vivre autour de l'audio et qu'il y a une forme de rituel autour de ça.
Et sentir que c'est pour eux, en fait, parce qu'on entend
se
beaucoup.
Se préparer aussi à, par exemple, certaines musiques.
Exactement.
À mon époque, Bonne nuit les petits, on savait tout de suite que ça allait aussi. Voilà, et vous avez tout à fait raison. La répétition permet de fixer aussi un certain nombre de choses, c'est-à-dire aussi de fixer l'apprentissage. Si vous avez à apprendre des nouveaux mots et quand on part de zéro, ça en fait beaucoup à apprendre, il faut les répéter pour extraire au fur et à mesure le sens véritable de ces mots. Ils n'ont pas de dictionnaire, par exemple, pour comprendre les mots. Donc, il va falloir qu'ils s'absorbent progressivement le contexte de l'histoire, et donc la répétition est effectivement très importante.
Et vraiment sentir que c'est pour eux, effet, parce qu'il y a beaucoup de parents qui disent mais la radio est toujours allumée en fait, donc il y a ce bruit de fond et c'est bien pour les enfants, ils entendent des mots. Ouais, mais là quand c'est pour
moi c'est là que j'ai envie de dire, attends, un petit warning allez pour la soirée, mais c'est pas du tout la même chose d'écouter quelque chose ensemble. On peut effectivement cuisiner en même temps, etc., mais d'être sous l'attention d'un adulte, de partager et de juste laisser quelque chose en fond, que ce soit la radio ou la télévision d'ailleurs.
Tout à fait.
C'est-à-dire que l'enfant, pareil, pour construire cette sécurité, il a besoin d'une chose, c'est d'être sous le regard attentif de parents ou de l'adulte qui vont l'aider à grandir. Et ce regard attentif, regardez un petit qui va jouer, il va pouvoir jouer en autonomie un petit peu, mais régulièrement. Très souvent, hop, ils tournent le regard. Ils regardent
pour savoir où est l'adulte.
Pour être l'adulte. Et ça, c'est hyper important parce que c'est pas la même chose de laisser une radio en continu, aussi bien soit-elle constituée, que de travailler ce regard.
D'ailleurs, quelque chose aussi, un conseil à donner aux parents qui ont parfois un peu honte de leur langue. Vous savez, il y a les langues qu'on dit, vous êtes anglais, alors c'est très bien de parler anglais et français. Vous êtes wolof, vous dites, ah non, là c'est pas... Et d'ailleurs, les professionnels enseignants des fois considèrent que ce n'est pas vraiment du bilinguisme, mais c'est du vrai bilinguisme, et il faut parler, même si c'est pas la bonne langue, même si c'est pas le bon accent, il faut à tout prix échanger avec l'enfant. C'est ça la chose cruciale. Alors, de reprendre l'histoire de France Inter, c'est génial de reparler, de répéter cette histoire-là, que ce soit le parent qui la répète ou le frère et sœur, ça c'est fantastique, et après ils vont réécouter à nouveau avec une compréhension différente.
Avant de prendre Erwan au téléphone qui nous attend, je voudrais juste revenir un tout petit peu sur ce que disait notre auditrice précédente, qui disait c'est vraiment très chouette parce qu'en plus en ce moment avec ce qui se passe, les guerres, etc. Je me demandais dans la perception en fait des tout-petits, quand on écoute la radio, si je puis dire normale, celle qui n'est pas pour eux et qu'il se passe des choses qui sont un peu graves, est-ce qu'il y a une forme de perception quand même ou pas du tout?
Ils sont sensibles à l'anxiété autour d'eux, donc ça dépend aussi comment les parents réagissent, et ils sont sensibles aussi aux sons. Si vous avez des sons notamment à la télévision de bombes qui éclatent, je veux dire, c'est tout aussi stressant pour eux que celle l'est pour nous. Donc, il n'y a pas de raison qu'ils ne le ressentent pas. Mais c'est pour ça qu'il faut pas... Enfin, faut faire attention à quoi on les expose.
Vous vouliez ajouter quelque chose?
Et surtout, il faut faire attention à la répétition. En fait, se redire que quand il y a un événement important, grave, par exemple, quand ça tourne en boucle, pour un enfant, un petit en particulier, d'avoir entendu 10 fois l'histoire d'un attentat, c'est comme s'il y avait eu 10 attentats. Ça fait un peu pour nous ça aussi, hein, pour les adultes, vrai. Mais on arrive un petit peu plus à le réfléchir et à le distancier. Mais c'est quand même ça. Et donc, c'est vrai que quand même, toutes les informations ne sont pas bonnes à entendre pour des enfants, on est quand même là pour les protéger. Ça veut pas dire les mettre sous bulle. Par exemple, si on reste sur les 2-6 ans, c'est la grande période des questions existentielles. Donc, par exemple, trop de parents fuit la question de la mort, de l'origine, etc., qui sont des questions fondamentales qu'on commence à poser à 3 ans, où je vais après la mort. Donc ça, au contraire, ce sont des questions qu'il faut réussir à aborder, et y compris avec nos incertitudes, et ça c'est chouette de pouvoir partager aussi ces incertitudes, de pas forcément être péremptoire sur des réponses. Ils attendent pas forcément des réponses, mais de partager des questionnements. En revanche, la violence du monde, moi, je pense qu'elle peut attendre un petit peu et qu'on est quand même là pour leur permettre d'avoir ce temps de l'enfance et cette construction de la confiance dans le monde.
On est en train de parler, l'occasion du lancement de mon tout petit France Inter, de ce que justement les tout petits ont entre les oreilles et perçoivent entre leurs oreilles, avec Ghislaine Dehaene-Lambert, avec Gwenaël Boulet et...
France Inter, le 18-20. 01 45 24 7000.
Et avec Erwan qui est à Nantes. Bonsoir Erwan.
Bonsoir.
On vous écoute.
Écoutez, j'apportais juste un petit peu un témoignage par rapport à mon activité professionnelle dans le milieu de la petite enfance, et apporter aussi un petit peu de légèreté par rapport à ce qui vient d'être dit. Je croise toutes les semaines en lien avec le travail, donc une école municipale de musique. On intervient dans le domaine petite enfance, donc on travaille avec les professionnels, avec les assistantes maternelles et les professeurs qui interviennent aussi dans ce milieu-là. On a vraiment des réactions, on va dire des enfants qui sont, on va dire fantastiques, même surprenantes pour les assistantes maternelles, quand on leur fait, par exemple, écouter des histoires, on leur fait découvrir des sons avec des petits instruments. Moi, je suis spécialisé un petit peu dans les tout petits instruments, et c'est vrai que la curiosité, elle arrive. Les enfants sont assis avec leurs turbulettes sur le parterre, on les voit lever un petit peu les bras. On croit que c'est insignifiant à nos yeux en tant qu'adultes, mais pour eux, la chanson est dit, ça veut dire beaucoup, mais c'est complètement ça. Même s'ils n'arrivent pas à percevoir encore tout à fait le regard, ils sont vraiment sensibles à toutes les histoires et toutes les sonorités qu'on leur apporte. Donc voilà, moi je voulais juste simplement témoigner de ça, c'est-à-dire que ils vivent le moment présent avec les sons qu'ils sont en train de découvrir, et ils sentent qu'il y a des histoires, de la musique, un environnement, et ensuite ils repartent dans leur journée, dans leur quotidien, quoi, voilà, avec les professionnels.
Merci beaucoup Erwan, merci pour votre témoignage. Ghislaine de Anne-Lambert, il y a la musique, il y a le son, le son
les
de la
rythmes,
vie,
la parole,
les bruits de la nature. Il y a le bruit aussi, non ? Il y a le bruit, y compris quand c'est pas le bruit de la nature. Enfin, je veux dire, est-ce qu'il faut vraiment préserver ces tout petits-là, par exemple, d'un marteau-piqueur ou de choses de ce genre-là ?
Non, mais il faut dire que les petits humains sont extrêmement curieux. Bon, je vois, on les amène dans un laboratoire. Ils arrivent dans un endroit où ils n'ont jamais mis les pieds, qui est curieux, avec des instruments curieux, comme on les amènerait ici. Ils seraient très surpris d'avoir tous ces micros tout autour. On leur fait faire des choses étranges. N'importe quel animal se contracte et se réfugie contre les parents. Au contraire, là, ils sont ouverts, ils veulent découvrir. Et ça, c'est vraiment la beauté de la petite enfance. C'est vraiment cet appétit pour... et cette curiosité pour le monde extérieur, et c'est ça qu'il faut arriver à nourrir à travers donc les échanges, à travers les jeux dehors. Les enfants ne sortent plus assez, il faut le dire. La lecture, la musique, le rythme, la radio. Et c'est aux parents, ce qui est toujours difficile pour eux, de savoir à quel moment ils doivent échanger, à quel moment ils sortent leur enfant, à quel moment. C'est ça la beauté d'être parent.
On a cette remarque sur WhatsApp de Simon Gwenel-Boulet qui dit « Je trouve que l'initiative est très louable, mais j'ai un petit peu peur que ça prenne la place de l'histoire ou de l'album lu par les parents. » Est-ce qu'il faut aussi se méfier de ça, au fond? Ça devient... Ah oui. Ça peut être un truc de feignant, quoi.
Je te mets
le tout petit France Inter.
Mais nous, c'est vrai que par exemple à Bayard Jeunesse, on propose beaucoup de choses, on se pose beaucoup ces questions-là. Ouais. C'est-à-dire que proposer des histoires lues en podcast, etc., c'est sympa, ça permet de les écouter aussi parfois ensemble. Ça permet à des moments, effectivement, où on est pris, de pas être non plus devant l'écran et d'avoir plutôt une attention qui est quand même pas la même que devant l'écran. On est moins passif en écoutant. On a quand même une activité qui est obligée de se créer, les images. C'est pas pareil. Mais il n'empêche que ça ne remplace pas la relation, la voix des parents, qui est si importante. Et ça, c'est le petit piège. Le deuxième que je soulignerais, je vais me faire un peu l'avocat du diable ce soir, c'est aussi, j'ai envie de dire, nourrir cette envie, pour nourrir ce plaisir d'apprendre et cette curiosité, il faut aussi des espaces, du jeûne, de l'ennui, du rien, du silence. Et ça, pour moi, c'est le grand absent de la société actuelle. Et on sait que les petits, mais nous aussi, ont besoin de cet espace de rien. On a tendance à, dès qu'ils s'ennuient, leur mettre un son, leur mettre un podcast, mettre un truc, leur faire. Or, on a besoin de vide pour avoir envie de le remplir. Et ça, moi, j'ai très envie je rêverais de moments où on fournisse aussi du silence. Parce que cette solitude habitée...
Un podcast de silence.
Non, mais je trouve que cette solitude habitée, on en a besoin, c'est-à-dire de faire confiance à l'enfant pour habiter ce vide. Ça, c'est le socle quand même de la...
aller chercher son activité.
Et pour lui chercher son activité.
L'histoire du récit par les parents, effectivement, et quitte à imiter les personnes, etc. Je comprends ça. Ghislaine Dehaene, est-ce que ça marche qu'on soit vraiment tout petit, c'est-à-dire 0 ans jusqu'à 5 ans, ou il y a ce moment où on s'émancipe justement des parents?
Il faut continuer, notamment les premières années du primaire, où les enfants ne savent pas encore trop lire, ont un peu cette distance encore au livre, parce que c'est dur la lecture, et de continuer à lire l'histoire tous les soirs, à lire le chapitre de Harry Potter, parce qu'à un moment, vous allez aller trop lentement pour eux, et ils vont continuer à votre place. Et c'est ça qu'on veut susciter, c'est l'amour de la lecture, l'amour des livres, de l'échange, et c'est aussi ça la...
Il y a des ados qui continuent à rechercher ça, hein. Nous on a des lectures, des moments de lecture avec les ados, et c'est super sympa.
C'est une petite Madeleine de Proust chez les ados, bien sûr, et chez nous tous, d'ailleurs. Salut Marine Mahousson.
Salut.
On est contente que vous soyez là, Marine. Humoriste, évidemment. Vous êtes créatrice de podcasts pour enfants. Et alors, votre contribution à vous au tout petit France Inter, c'est les mini-vulgaires.
Absolument.
Et vous racontez, pourvu que ce soit dégoûtant, en fait, vous racontez. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt celle sur le caca, je dois le dire.
J'imagine que vous avez appris plein de trucs.
Mais vous plaisantez, mais j'ai appris plein de trucs, absolument. notamment l'échelle de Bristol, excusez-moi, mais je ne savais pas ce que c'était. Est-ce que vous savez
non, eh ben, voilà, non,
personne
alors,
ne sait ce que c'est que l'échelle de Bristol.
Et là, c'est l'échelle du caca, de la forme, de la. Ah ouais. En fait, il y a 7 types de caca différents.
Voilà.
Qui valent de la saucisse bien moulée à des choses un peu moins moulées, on va dire.
Voilà. Donc, vous nous parlez aussi de ce qui sont pas bons, comme le fromage, etc. On va en parler avec Ghislaine Dehaene de ce moment-là où on a besoin d'entendre ces histoires-là. Mais moi, je suis assez curieuse de savoir comment ça se construit des histoires comme ça, Marine, pour parler aux tout-petits. Parce que c'était votre cahier des charges. Raconte-moi les trucs qui sont cradoc. Comment ça se construit, ouais. En fait ?
Oh bah, en fait, moi, je pars de moi-même. C'est-à-dire, qu'est-ce qui m'amuse ? Qu'est-ce que je ne sais pas ? C'est vrai que je parle aux enfants, mais je me parle d'abord à moi-même. C'est-à-dire que je me dis, bon, ok, le caca, par exemple, prenons ce sujet, et je suis très heureuse d'en parler sur France Inter, je ne cache pas.
Je vous en prie.
de me dire, qu'est-ce qui, moi, m'intéresse ? Qu'est-ce que je voudrais savoir ? De pourquoi ça pue ? De pourquoi, de quoi c'est constitué ? Et finalement, je réponds à mes propres questions. Et après, je me dis, comment est-ce que je peux faire pour faire rire les enfants, pour les attraper ? Alors, c'est vrai que, par rapport à mon tout petit France Inter, moi, je ne suis pas dans la partie basse de mon... Je suis pour les grands des tout petits.
J'ai bien compris que vous étiez plus dans les 6 ans que dans les 2 ans.
Voilà,
on est d'accord.
Bah, disons que c'est plus
et encore que
3,
d'ailleurs.
Hein.
3,
encore
4,
que, 4, oui, 6, là, le ouais. Début de la maternelle, caca boudin, etc.
Exactement. Mais c'est quand même technique, hein, parce que quand j'explique les microbes, quand j'explique le fromage, ça reste quand même un peu technique. Hein. C'est de la science, finalement. Donc c'est important. En fait, ça se construit, en tout cas, à base de ma curiosité et surtout une envie de n'avoir aucune limite.
Et alors, c'est ça qui... Et vous avez devancé ma question, Marine, parce que c'est vraiment ce que j'allais vous demander. Est-ce qu'on se fixe une limite, en fait ? Parce que effectivement, Ghislaine Dehaene a raison. Pipi caca, ça commence vers les 2-3 ans et youpi dans la cour de l'école et les crottes de nez, etc. Tout va bien. Mais quand même, il faut se fixer quelques limites. Et comment vous voulez fixer ?
Je m'en fixe pas, je crois. Okay. Moi, je.
Vous n'avez pas des enfants cobayes ?
Non, bah si un peu. Mon neveu Roger, il s'appelle Roger. Non, mais en fait, disons que l'avantage, je suis aussi humoriste pour adultes. Hein, j'officie sur cette chaîne pour les adultes, mais c'est vrai que pour les adultes, c'est compliqué d'écrire. Je me pose tellement de questions. Je trouve que j'ai toujours peur qu'on me juge, alors que les enfants, ce n'est que de la. Les enfants, s'ils aiment pas, ils aiment pas. Mais quand ils aiment, ils aiment. Profondément, et c'est simple. Et en fait, avec eux, je m'autorise des voix, je m'autorise des personnages, je m'autorise tellement de choses que finalement, c'est comme un immense terrain de jeu, une grande cour de récréation. Et je crois que c'est ça qui fait que ça marche. En tout cas, Mini Vulgaire existe, mais il y a aussi Petit Vulgaire quand on est un peu plus grand. Et c'est vrai que je crois que ce qui marche, c'est que finalement, je parle aux enfants à leur niveau et je m'autorise à être complètement zinzin, quoi.
Et c'est vrai que ça fait beaucoup de bruit. Il y a beaucoup de voix différentes, il y a beaucoup de tons différents. C'est super bien réalisé. Ces petites choses-là. Restez avec nous, Marine. Moi, j'aimerais bien votre avis, Ghislaine Dehaene, sur ce genre de choses-là. En fait, c'est très festif, hein, ce que fait Marine. À quel moment, en fait, on joue avec un
provocant
gamin ? Bien sûr.
Je ne sais pas si c'est caca ou etc. Mais il y a un moment où les enfants recherchent la provocation. C'est aussi le moment où ils vont commencer à parler. Par exemple, avancer vers la nourriture des chats tout en regardant pour voir que vous voyez qu'ils vont faire une bêtise.
Mais
donc, ils vont
mieux,
pas vraiment
fait.
Faire la bêtise. Ouais. Ils s'arrangent pour voir que vous voyez qu'ils vont faire la bêtise. C'est ce sens de l'humour qui en fait apparaît extrêmement tôt. Là encore, chez le bébé, on peut voir qu'il commence à apprécier ces situations où ils sont un peu décalés.
Première et transgression.
Ouais, voilà. Et ça, ça fait partie. Alors, pipi caca, c'est très facile de choquer papa et maman, donc on y va à fond.
Mais tant mieux, et vive la transgression, non, parce qu'à un moment, il faut quand même aller tester les limites, voir jusqu'où on peut aller. Après, ça se retrouve dans la cour de l'école quand on est sorti du cocon des parents. Il faut y aller, non, dans ces mini-transgressions, non ?
Ouais, moi, je pense
pas
que c'est
un terrain... Pas au point de mettre la main sur le fourneau, je suis d'accord.
Non, mais je pense que c'est un terrain parmi d'autres, en tout cas. Dans la littérature de jeunesse, donc moi, je m'occupe de Poppy et Pomme d'Api, qui sont deux magazines pour les tout-petits, et puis donc âge maternel. Donc là, nous, on va tous les 15 jours, pour le coup, en école, pour retester des choses. Le but n'est pas de s'interdire des choses, mais pour le coup, d'être accessible à tous. Nous, pour le coup, on a cet objectif d'être accessible à tous. Or, la grande différence va se faire quand même entre l'âge de raison. C'est pas pour rien qu'on l'appelle encore l'âge de raison. C'est-à-dire que avant, sur l'âge maternel, on a une pensée magique qui envahit tout. C'est-à-dire que c'est très compliqué d'avoir la différence entre le réel et l'imaginaire. Donc, par exemple, pour faire du documentaire, c'est pas si évident que ça. Travailler pour les petits et être compréhensible pour les petits en documentaire, nous, plein de fois, quand on explique le camion poubelle, là, on a fait sur l'espace, etc., la mission, on est là avec notre projection d'adulte et nos liens logiques d'adulte. Et je peux vous dire que quand vous retournez avec des enfants de 4 ou 5 ans qui vous regardent avec des yeux grands comme ça et que vous les avez paumés en cours de route parce que, eh ben, y a des liens qu'ils n'avaient pas, nous, c'est vrai qu'on a ce travail d'aller refouiller pour rendre accessible quelque chose et ne pas mettre en échec.
Et Marine, vous l'avez ça hein, chez vous. Notamment, il y a le compost dans les choses qui puent et qui sont peu ragoûtantes. Donc, il faut raconter aussi, puisque vous parlez du camion poubelle. Enfin, faut de l'info aussi là-dedans, en fait, y compris pour des tout-petits.
Il faut...
Exactement, oui.
Pardon.
Est-ce que vous,
allez-y,
disiez,
Marine, pardon.
Je me permets de couper.
Mais
ce que vous disiez tout à l'heure pendant l'émission, c'est que c'est pas une seule écoute d'expérience. En tout cas, moi, les enfants, je sais qu'ils écoutent énormément. Et donc, en fait, on peut se permettre de se dire, il y a des trucs qui vont choper tout de suite quand ils vont écouter une première fois. Mais à la 53e écoute, peut-être qu'ils vont comprendre quelque chose aussi parce qu'ils vont vieillir avec ces contenus-là. Et c'est ça que je trouve assez formidable avec le podcast, c'est que ça les accompagne à plein de moments de leur vie. Et c'est pour ça que je suis assez heureuse que ça existe, cette petite radio, mon tout petit France Inter, parce que finalement, c'est leur autoriser aussi à être maître de ce qu'ils vont apprendre et de leur curiosité. Et ça, je trouve ça génial, quoi.
Marine Baousson, on vous embrasse, on vous remercie mille fois. Le tout petit France Inter, donc, avec les mini-vulgaires, et vulgaires comme vulgarisation, mais évidemment, le jeu de mots, nous, on le comprend, les adultes, et il nous plaît bien. Et Marine, je voudrais vous dire que vous êtes au Théâtre Michel, enfin, vous dire, non, prévenir les gens, parce que vous le savez. Vous êtes, enfin, je crois. Vous êtes au courant, vous êtes au Théâtre Michel du 23 février au 30 avril,
au courant,
Marine.
Absolument.
Avec le spectacle qui s'appelle Pourquoi, adapté justement du podcast du petit vulgaire et pas du mini. Merci mille fois, Marine, c'est un bonheur de vous entendre et de vous avoir. On vous embrasse. Voici Nicolas qui est avec nous. Il nous reste du temps, Nicolas. On vous écoute.
Bonsoir, merci. Je voulais porter un témoignage et poser une question. Le témoignage, c'est donc moi je suis français, ma femme est américaine. Donc nos enfants, on les a élevés dans les deux langues et des tout petits répondaient en anglais à leur mère et en français à moi. Maintenant, j'attends un premier petit-fils et en fait il va habiter à Londres. Son père donc parle français et anglais, sa mère parle hébreu et anglais. Et je me demande comment il va pouvoir gérer trois différentes langues. Deux je sais, mais trois.
Aucun problème.
Je connais ici.
Aucun problème. Vous avez entendu à l'instant, Nicolas. Il y a Gislaine Dunn qui vous dit aucun problème.
Non. Le langage est vraiment une propriété du petit. C'est les enfants qui apprennent à parler. C'est eux qui apprennent facilement une langue, deux langues, trois langues. Il y a plein d'endroits où en fait les enfants sont exposés à beaucoup plus de langues que nos milieux très monolinguistes tels qu'en France. C'est nous les adultes qui avons des difficultés avec les langues. Et donc en fait très tôt ils savent quelle est la langue que, comme vous le disiez monsieur, que chacun parle et il va s'adresser dans une langue particulière avec une personne particulière.
Ça veut dire qu'il faut pas s'inquiéter si au début ça babille bizarrement en fait en passant là en l'occurrence
oui, ou s'il passe d'une langue à l'autre
de l'hébreu au français en passant par l'anglais. Lui non, il se comprend, c'est pas grave.
Non mais il sait qu'il utilise comme par exemple nous qui sommes chercheurs, on fait beaucoup de notre recherche en anglais, de temps en temps on importe des mots anglais en français mais on sait que c'est parce qu'on se laisse aller. On sait très bien quelle est la différence entre les deux langues et les bébés aussi. Les enfants, je veux dire, en général aussi. Et donc, parfois, ils n'ont pas le mot dans une langue, donc ils vont le prendre, par exemple, les mots de l'école vont être en français, par contre, les mots à la maison vont être en anglais. Et donc, quand ils vont prendre des mots de ce qu'ils ont appris à l'école, ils vont mettre les mots français, mais c'est pas parce qu'ils mélangent les langues, c'est simplement parce qu'ils n'ont pas le mot dans la langue. Ils séparent très facilement les langues.
Je me demandais, Gwenaëlle Boulet, j'imagine que vous êtes amusée à regarder des archives de pommes d'api où vous travaillez, des choses comme ça. Je me demandais jusqu'à quel point, en fait, tout cela avait changé. Parce que ça veut dire jusqu'à quel point, c'est là que vous êtes tellement complémentaires l'une l'autre, on avait compris, grâce à ceux qui travaillent sur le cerveau de l'enfant, tout ce qu'on peut leur montrer, tout ce qu'on peut leur faire lire, tout ce qu'on peut leur apporter aujourd'hui par rapport à ce que c'était à l'époque où moi je lisais Pomme d'Api.
Ouais, bah c'est né en 65, Pomme d'Api, on va fêter les 60 ans. Pour avoir bien plongé dans les archives, effectivement, mais pas tant de choses que ça.
Ah ouais?
Non, il y a pas.
On a confirmé des intuitions.
Exactement, ouais. On a confirmé des intuitions. Ce qui a pu changer, ce sont plus des choses sociétales, c'est-à-dire des projections sociétales sur le rôle de la mère, les rôles du père, les rôles de voilà la fonction des voilà autour de l'enfant. Mais quelque part sur l'évolution de l'enfant, ce qu'il est capable d'apprendre, l'autonomie, pas tant que ça. Si ce n'est quelque chose qui m'a frappé moi, c'est le rétrécissement de l'espace de liberté et d'autonomie de l'enfant. Mmh. C'est-à-dire que dans les années 60-70, on avait plein d'histoires dans lesquelles l'enfant va tout seul à l'école à 5 ans, mais véridique. Alors, que ce soit réel, imaginaire ou projeté, des choses qu'on se...
Il y a une diminution de la distance que l'enfant parcourt mais seul.
Et du terrain d'autonomie, et de... On a parlé du jeu, je tiens à le dire, c'est quand même le jeu, c'est le boulot de l'enfant.
Mais on allait faire du vélo avec mon grand frère, et mes parents ne savaient pas où on était, et aujourd'hui, je ne suis pas sûre qu'il y ait un parent qui envoie son fils ou sa fille faire du vélo.
Voir en tant que parent, je pense qu'on pourrait nous reprocher de dire, mais vous êtes inconscient d'avoir laissé votre enfant de 5 ans tout seul à attaquer un vélo. Donc ça, c'est une des choses qui m'a marquée, en tout cas, entre les histoires de l'époque et d'aujourd'hui.
Est-ce que, au corps défendant des parents, parce que la société fait peur, est-ce que c'est une espèce de forme de perte d'autonomie, en fait, d'une certaine façon?
Oui, et certains relient les troubles de l'anxiété que présentent les adolescents au fait qu'ils ne connaissent pas leurs limites, qu'ils n'ont pas essayé assez tout seul de faire des choses, et donc ils ne savent pas ce qu'ils peuvent faire.
Allez, les amis, mon tout petit France Inter, c'est parti. Profitez-en, merci vraiment beaucoup. Je voudrais vous laisser sur cette message de Marianne qui dit, en vous écoutant, je repense à ma fille qui aujourd'hui a 27 ans et qui réclamait la météo marine comme poésie. Elle adorait ça. Nous aussi, on adorait. On embrasse Marie-Pierre Planchon.